Ah, le pétrole. Le pétrole, je trouve que c'est un sujet très triste là que vous me donnez. Quand je vois qu'on veut aller chercher du pétrole au pôle Nord, ou, ça m'afflige, ça m'attriste, ça m'atterre.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen. 2 heures chaque après-midi pour décrypter notre époque à travers ses mots-clés. Et aujourd'hui, on va zoomer sur celui dont tout le monde parle. Il est partout, personne ne peut vivre sans lui, il est au cœur de notre quotidien. Non pas Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, désormais présent aussi dans la matinale d'Inter et dont vous entendez parler presque autant que Moziman, mais le pétrole.
Oula.
C'est bien, c'est récent.
C'est récent, oui.
Chantal
c'est...
Goya, qui ah, a ouais. toujours eu Étonnant. Un flair géopolitique inouï, avait raison quand, dès 1979, elle alertait sur les dangers du tout pétrole dans son titre, véritable manifeste politique, Monsieur Pétrole. Car, on va le voir, le pétrole est partout. Dans nos voitures, dans nos avions, enfin quand je dis nos, ceux que Cyril prend pour se faire des week-ends à Vegas, moi je ne me déplace plus qu'en Ouigo ou en covoiturage. Le pétrole est également dans nos médicaments, dans les jouets en latex de Manon Mariani, dans le kart de Quentin. Bref, il se murmure même qu'en kidnappant le président vénézuélien Nicolas Maduro, Nicolas Trump, c'est un autre membre de la famille qu'on ne connaît pas, Donald Trump ne visait pas seulement à faire chuter une dictature et rendre sa liberté au peuple vénézuélien, parce qu'il adore la liberté, mais qu'il avait aussi comme arrière-pensée de mettre la main sur les réserves pétrolières du pays les plus importantes au monde. Comme disait Manon Mariani dans le supplément géopolitique du Times...
Ça fait peur, hein?
Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, pas autant que la nouvelle boucle d'oreille de Pierre Courade, mais ça fait peur.
Ça fait vraiment peur.
C'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé de zoomer sur le pétrole, son histoire, son avenir aussi. Pourquoi, à l'heure de la décarbonation, il reste un enjeu si fort et une telle source de tension internationale? Comment se fait-il qu'il reste incontournable pour la fabrication de carburant, alors que Quentin lui a présenté, via sa filiale Lupower, un carburant bio à base de Pinot de Nice? Initiative qui avait été saluée par Cyril, qui avait déclaré qu'en faire de l'essence, c'était le seul usage raisonnable qu'il y avait à faire, du Pinot de Nice. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bon, oui,
bah, c'est pas cool parce que
c'est
vous
pas
avez...
cool pour
bah,
qui
bah pour le Pinot de Nice, parce que
c'est très bon en plus.
Mais non, vous avez des amis.
Moi, j'adore ça.
Qui travaillent là-dedans.
Vous aimez ça. Vous avez acquiescé l'autre jour, Mathieu Noël.
Oui, j'ai acquiescé.
Il y a que Cyril qui l'a recraché.
J'ai acquiescé parce que je suis poli, mon cher Quentin. Vous l'aviez amené chez moi. Bon, oui, bref.
C'est pas bon, quoi.
Oui, non, mais.
Oh.
Ouais, juste, c'est pas bon.
Oui, mais ce n'est pas le débat du jour. Exactement. Oui, c'est ce que j'allais faire, Cyril, si tu ne m'avais pas interrompu, en fait. Je sens qu'on se lâche complètement. Bonjour, Mathieu Ozano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Zoom Zoom cet après-midi. Vous êtes directeur de Shift Project, le think tank qui réfléchit à une société décarbonée qui a été créée il y a une quinzaine d'années maintenant par Jean-Marc Jancovici. Mm-hmm. Vous êtes un ancien journaliste et en 2015, vous avez publié un livre qui fait toujours autorité, Or Noir, la grande histoire du pétrole aux éditions La Découverte, fruit de plusieurs années de recherche. Le monde a été sidéré l'autre jour par l'attaque américaine sur le Venezuela et l'enlèvement de Nicolas Maduro, le tout sans vraiment cacher l'intention première de ce coup de force, mettre la main sur les immenses réserves de pétrole du pays. Comment le pétrole est devenu un outil et un levier dans les relations internationales, sa raréfaction va-t-elle conduire à des conflits plus durs? C'est ce que vous allez nous expliquer cet après-midi, juste le temps de vous présenter mes fidèles acolytes. À vos côtés, Mathieu, en ce moment, elle a les yeux rivés vers Hollywood. Depuis la soirée des Golden Globes dimanche soir, elle fait des rêves bizarres. Cette nuit, par exemple, elle s'est réveillée en sursaut alors qu'elle rêvait qu'elle faisait son coming out sur la scène des Golden Globes et qu'elle faisait du même coup une déclaration à sa compagne, Léna Mafouf.
Merci à ma partenaire depuis 3 ans, merci pour tout ce que nous avons construit ensemble, je t'aime.
Qui sait, Manon, un jour peut-être.
Ah,
un
beau,
jour
hein.
peut-être. En attendant, mais... retour à la réalité, à l'hétérosexualité aussi.
Oh,
dans votre pièce jointe. Oui, bon, faites ce que vous voulez. Dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Un film, il est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma, l'un des meilleurs films du 21e siècle. Et évidemment, il est en lien avec notre thème du jour.
Face à vous, Mathieu.
Vous n'avez pas vu Quentin, hein, je pense.
Le clip de Shakira, non, c'est quoi?
Ne dénigrez pas le travail de votre collègue.
Mais pas du tout.
J'allais vous présenter de manière
Elle
très
précieuse. Elle a compris
pourquoi. Ce que je ne ferai pas. Face à vous, Mathieu. Il veut bien écouter sans broncher ce qu'il appelle les sornettes de Jean-Marc Jancovici. Oh. Cependant, on lui enlèvera pas de l'idée qu'une Formule 1 n'avancera jamais à l'huile de ricin. Et un monde sans Formule 1, clairement, il n'en veut pas. Sinon, que fera-t-il le dimanche? Parler à sa compagne? Non, merci. Quentin, chaque matin, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre mot du jour. Alors, le pétrole, j'imagine que chacun a son petit avis.
Ah bah, je vous conseille de vous balader avec une pancarte pétrole dans la rue. En ce moment, vous n'allez pas être déçu. Mais au fond de vous, que pensez-vous de cette roche liquide que l'on va puiser au fond de nos sols? Des réponses complètement à la rue dans la prochaine demi-heure, Mathieu.
Vers 16h30. 14h30, à la demande de Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef qui utilise son Ford Raptor pour aller chercher le pain et dont le meilleur ami est le président d'ExxonMobil, nous rééquilibrerons l'angle éditorial très anti-pétrole de cette émission en vous proposant un quiz sur les bienfaits du pétrole, toutes ces merveilles que sans lui nous ne connaîtrions pas. Juste avant 17h, on peut être devenu une star de la littérature française mais continuer d'honorer ses engagements contractuels de comique. GC nous rejoindra. Après 17h, on scannera évidemment l'actu du jour, mais on parlera aussi cinéma avec nos invités Abdelmalik et Vincent Macaigne aujourd'hui. Mais d'abord, Mathieu Ozano, zoom avec vous sur le pétrole. Je l'évoquais en vous présentant, le pétrole, c'est la principale cause finalement de l'enlèvement de Nicolas Maduro par les États-Unis. Il ne faut pas se voiler la face.
Non, et puis ça a été revendiqué très, très clairement et à de multiples reprises par Donald Trump en personne. Donald Trump, c'est un peu la farce après la tragédie, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'ont fait beaucoup de ses prédécesseurs, les Bush, père et fils notamment, simplement il ne s'en cache pas. Lui, à propos de l'Irak, qui a été envahi en 2003 par les États-Unis, il avait dit « moi, j'aurais pris le pétrole, j'aurais pris le pétrole ». À l'époque, personne ne le prenait au sérieux, et il assume haut et fort le sale petit secret de polichinelle de la puissance américaine depuis un demi-siècle.
Ah oui, donc vous lui trouvez finalement quelques qualités à Donald Trump. Au moment, il fait frontalement
ce que les autres faisaient
dans le dos.
La vertu d'un clown, d'un clown triste.
Yes, Darren.
Vous êtes allergique à Trump.
Manon ne supporte pas qu'on cite le nom de Trump. Elle est tellement de gauche, si vous voulez, que ça crée une réaction épidermique chez elle, comme ça. Écoutez ce sketch. Yes, Darren. Of course, Darren. I know it's bullshit. I know that petrol is very good. Yes, France Inter is gauchiste radio. What? Communist radio. Yes, you're right, Darren. But you can count on me. I will defend petrol on this show. Yes, thank you, Darren. Many kisses on your butthole. L'enregistrement de cette conversation entre Cyril Lacarrière, Darren Woods, le CEO d'ExxonMobil, que vous aurez reconnu notamment à l'accent, et fera probablement l'objet d'une nouvelle commission d'enquête sur l'audiovisuel public. En attendant, Cyril, racontez-nous le pétrole, d'où ça sort.
Imaginez une matière gluante, une qui pue, qui soigne de la terre et qui tâche tout ce qu'elle touche.
Sans le Pinot de Nice.
Oui, aussi. Mais il y a pire que le Pinot de Nice, juste pire.
Ah oui.
Sans cette matière, pourtant, pas de voiture, pas de plastique, pas de vêtements synthétiques, pas d'aspirine même, bref, tout un pan du monde d'aujourd'hui au point mort. Pourtant, avant de devenir l'or noir, le pétrole a longtemps été une malédiction. Si vous en aviez dans votre jardin au début du 19e siècle, votre terrain ne valait rien. Le pétrole, on le connaît depuis toujours pourtant. À Babylone, il servait pour cimenter les briques, en Égypte pour des momies, en Pennsylvanie pour faire des médicaments. On appelait ça l'huile de roche, une sorte de remède de grand-mère contre les rhumatismes.
Ah, je viens de comprendre pourquoi dans Astérix, ils appellent ça l'huile de roche.
Mais oui.
Dans l'Odyssée d'Astérix. Mais quand a lieu le point de bascule pour le pétrole, Cyril ?
Titusville, Pennsylvanie, 1859. À l'époque, pour s'éclairer le soir, le monde entier brûle de l'huile de baleine. Bon, vous imaginez que ça a coûté ce que ça a coûté à la population des baleines de l'époque. Il fallait trouver un remplaçant pour les lampes. Et c'est là qu'entre en scène Edwin Drake, un ancien conducteur de train. Des investisseurs l'envoient en Pennsylvanie pour creuser le sol et dénicher cette fameuse huile de roche en profondeur. On surnomme son chantier la folie de Drake. Pendant des mois, il creuse, ça s'effondre, il n'y a plus d'argent. Et pourtant, le 27 août 1859, à 21 mètres de profondeur seulement, ça bouillonne. Et voilà que le liquide noir jaillit. C'est le début de la ruée vers l'or noir. Alors d'où ça sort le pétrole ? Eh bien d'un gars qui a découvert une des plus grandes richesses de la planète et qui a fini mort, pauvre, oublié de tous. Et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Mathieu Ozano comprend que l'exploitation du pétrole va vite dépasser le simple usage des lampes pour s'éclairer. À quel moment on a vraiment compris que le pétrole allait tout changer, que ça allait être un tournant civilisationnel, un produit indispensable pour tout le développement industriel qui allait suivre?
Déjà, le fait que ça ait servi de source de lumière, c'était la première source de lumière abondante. En fait, avoir s'éclairer abondamment, c'était réservé aux riches. Ensuite, ça a été un lubrifiant. Il y avait beaucoup de lubrifiants animaux, d'origine animale ou végétale, mais difficile d'en avoir en abondance. Et puis, c'est les industriels et beaucoup les militaires qui ont repéré, en particulier les marins, avant la guerre de 14, qui ont repéré qu'on avait là une source d'énergie, donc de puissance économique, militaire, plus abondante encore que le charbon et plus pratique que le charbon, plus concentré, et c'est vraiment un cadeau, c'est une source de puissance réputée intarissable qui a été offerte par la nature pratiquement gratuitement et très très vite. On se souvient des Rockefeller, de la dynastie Rockefeller. On a toujours ExxonMobil qui est l'héritière de la Standard Oil. C'est la première source de profit la première source de richesse et même de puissance physique que l'humanité n'ait jamais mis au jour.
Je lisais dans ce que lisait Alexandre Marc, l'ancien chef de la Banque mondiale, le PIB du Venezuela se situe plus ou moins au même niveau que le Honduras ou le Nicaragua, alors qu'il pourrait être au niveau de l'Arabie Saoudite. Parce que je lisais, le Venezuela a d'énormes ressources pétrolières. Comment on explique ce différentiel ?
Bon, le Venezuela s'est beaucoup appauvri les dernières années parce qu'il y a eu une espèce d'effondrement de l'économie pétrolière vénézuélienne, alimentée... un effondrement qui a été largement alimenté par les sanctions américaines, en particulier celle de Trump, premier mandat en 2017. Mmh. Mais c'est clair que le Venezuela dispose de vastes ressources en pétrole. Peut-être pas les premières ressources mondiales, il y a beaucoup de...
Ah, moi, c'est ce que j'ai lu.
Oui, c'est ce que tout le monde dit, ouais, mais en réalité, les données techniques sont nettement en dessous de ces chiffres qui sont revendiqués par les États. En fait, c'est pour un État souverain comme le Venezuela, mais comme la Russie, l'Arabie Saoudite, en fait, le trésor pétrolier, c'est vraiment la base du régime. Et donc, il y a de la diplomatie derrière, et révéler le moindre chiffre sur les réserves pétrolières techniques, eh bien, ça peut s'apparenter à violer un secret d'État.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
C'est clairement l'événement international de ce début 2026, avec le piercing à l'oreille de Pierre Courade, la capture de Nicolas Maduro par les États-Unis de Donald Trump, l'occasion de zoomer sur celui qui reste donc le nerf de la guerre, le pétrole. Ça tombe bien, le directeur du think tank de Shift Project, Mathieu Ozano, auteur de Or Noir, la grande histoire du pétrole, est avec nous. Mathieu, est-ce qu'on peut dater, est-ce qu'on sait dater le premier conflit armé lié au pétrole ?
L'accès au pétrole a été très important pendant la Première Guerre mondiale. Et il est évident, encore plus évident dans la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, vous avez les deux premiers exportateurs mondiaux, les deux premiers producteurs mondiaux de pétrole, Union soviétique et États-Unis, qui triomphent de deux nations qui ont une volonté de puissance infinie, mais qui n'ont pas de pétrole. Et Stalingrad, on se rappelle tous de nos cours au lycée sur la bataille de Stalingrad, l'objectif de Stalingrad, c'est le pétrole de Bakou, qui à l'époque est la plus grosse source d'énergie, donc de puissance, sur le continent eurasiatique.
On pense aussi évidemment à l'Irak, en 2003, la guerre lancée par George W. Bush, c'était aussi pour mettre la main sur le pétrole de Saddam Hussein ?
C'est la grosse différence avec la situation de Trump vis-à-vis du Venezuela, c'est qu'à l'époque, il était inconvenant de dire que c'était une affaire de pétrole. Ouais. Or, en fait, ça a été dit notamment par Alan Greenspan, qui a été le patron de la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine. Il a dit dans ses mémoires un truc comme « Ah, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on prend tant de précautions pour affirmer ce que tout le monde sait, bien évidemment. » Et il y a un autre truc dont il faut se rappeler, c'est que l'administration Bush, au moment où elle prend la décision d'envahir l'Irak, c'est l'industrie pétrolière qui a largement mis la main sur la Maison-Blanche. Mmh. Dick Cheney, il avait été patron d'Halliburton, qui est la grande compagnie de services pétroliers. Bush était lui-même un pétrolier, fils de pétrolier, son prédécesseur à la Maison-Blanche, son papa qui avait envahi l'Irak. Et en fait, il y a tout un jeu qu'on redécouvre à l'état pur, à l'état chimiquement pur, d'exercice de la puissance américaine, qui a tenté de planter le drapeau dans le golfe Persique, et qui aujourd'hui tente chez elle de reprendre la main sur une très très belle source de puissance qui lui a échappé longtemps, le Venezuela.
Mais chez elle, c'est pas chez elle, le Venezuela, c'est quand même un autre pays indépendant.
Demandez-leur à eux, c'est le golfe des Amériques.
Et justement, Trump, il dit que le gouvernement vénézuélien a volé le pétrole qui appartenait aux Américains. Comment on peut suivre cette argumentation ? Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?
Il y a eu deux séries de nationalisations. Alors, ils n'ont rien volé du tout, ils ont fait un chèque, comme ça se fait en cas de nationalisation. Alors, plus ou moins forcé, peut-être que les pétroliers américains n'avait pas envie de quitter le pays. Ce qui est vrai là-dedans, c'est que, comme en Arabie Saoudite, toute l'industrie pétrolière vénézuélienne a été longtemps une succursale des grandes compagnies dont on connaît le nom aujourd'hui, américaines, les Exxon, les Chevron, les mobiles. Ça c'est vrai, donc le capital, l'ingénierie et les puits ont été longtemps contrôlés par les États-Unis, mais c'est un enjeu en Amérique latine. La nationalisation du pétrole au Mexique, qui a également été développé par les pétroliers américains, est une fête nationale. Voilà. Et ça a été les premiers à nationaliser, d'ailleurs, avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pas quand la terreur et la haine du gringo qu'on peut avoir en Amérique latine, elle a souvent beaucoup à voir, alors longtemps a eu à voir avec d'autres sources, la canne à sucre, mais le côté prédateur un petit peu des voisins du Nord sur les ressources pétrolières n'est pas du tout une nouveauté.
Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre, alors c'est peut-être un peu naïf, les États-Unis ils produisent eux-mêmes du pétrole, pourquoi ils vont en chercher ailleurs? C'est juste pour asseoir leur puissance?
Absolument. Absolument. En fait, aujourd'hui, grâce à la résurgence de la production pétrolière américaine, on a en fait l'empire pétrolier américain qui est revenu en pleine force, comme on ne l'avait pas vu dans les années 70. En fait, jusque dans les années 70, c'est-à-dire au moment où la puissance américaine économique est à son fait, toutes les grandes compagnies, les premières compagnies américaines sont toutes des compagnies pétrolières ou des compagnies qui consomment cette puissance, notamment Ford ou General Motors. En fait, il faut bien c'est marrant parce que quand on parle de puissance à l'échelle humaine, on parle de puissance économique, politique, éventuellement militaire, on a tendance à oublier complètement qu'on parle à la lettre d'énergie. Exercer une puissance, c'est disposer de ressources adéquates, ça suppose de disposer d'abord de ressources adéquates en énergie. Et la plus belle, physiquement, la plus abondante source d'énergie qu'on a aujourd'hui, c'est le pétrole.
Et j'ai lu, et ça j'ai envie que vous me disiez si c'est vrai ou pas, les stocks, depuis l'intervention américaine à Caracas, les stocks de brut vénézuéliens augmenteraient très rapidement.
Alors ils sont obligés de stocker à mort puisqu'il y a un embargo, enfin qu'il y a un blocus. En fait, c'est vraiment le retour de l'impérialisme inventé en Europe. Ça s'appelle la diplomatie de la canonnière. C'est-à-dire vous négociez avec un gros bâton, c'est-à-dire vous mettez la flotte. C'est le plus gros déploiement de la flotte américaine depuis la crise des missiles à Cuba, ce qui se passe en ce moment. Oui. Donc aucun pétrolier ne peut sortir. S'il y en a un qui se faufile, il se fait rattraper très très vite. Il y en a eu un qui s'est fait choper dans l'Atlantique Nord. Les Russes, qui étaient destinés à la Russie, les Russes ont amené un sous-marin dans le coin. Mais non, ça a été pris par les Anglais alliés des Américains. Donc du coup, bah oui, ils sont obligés de stocker parce qu'ils ne peuvent pas exporter. C'est ça la pression. Il y a aucune. Ce qui est rigolo, c'est qu'il n'y a aucune espèce d'intention. Comme c'était mis en avant à l'époque de l'Irak, d'amener la démocratie, ni même de changer de régime. L'idée, c'est de reprendre le contrôle sur une pièce importante pour l'échiquier américain, pour exercer sa puissance.
Et vous, pourriez-vous vous passer du pétrole, vivre sans plastique, sans aspirine et surtout sans jamais vous faire un petit karting entre amis le week-end? Quentin est allé vous poser la question tout en connaissant la réponse. Non.
Ma première rencontre sort de nulle part. Je la croise sur le trottoir avec un sac à dos recouvert d'un matelas très fin, enroulé, accroché dessus. C'est une auditrice, elle est heureuse de nous voir.
Oui, bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Marie-Laure.
Marie-Laure, vous connaissez l'émission?
Oui, j'adore.
C'est vrai?
Oui.
Vous nous écoutez quand?
Dès que je peux, dans la voiture en général, voilà.
Qu'est-ce que vous faites? Vous partez en randonnée ou quoi?
Je rentre de Quimper et je vais dans mon ashram de yoga.
Ah, je me disais que ça sentait un petit peu le yoga. D'abord, toute heureuse de découvrir le mot du jour de Zoom Zoom Zen, elle déchante.
Oh, oh le pétrole.
Et vous auriez pu tomber sur un sujet un peu plus...
Plus gai. Un peu plus gai. Quand je vois qu'on veut aller chercher du pétrole au pôle Nord, ça m'afflige, ça m'attriste, ça m'atterre. Je veux dire, on puise une réserve qui était là depuis très longtemps, juste pour continuer de vivre comme avant, sans réfléchir et continuer de détruire la planète. Et vraiment, ça me donne envie de pleurer. C'est pas gai, hein, votre sujet.
Ah oui, vous êtes émue?
Allez, gorge serrée, je vois les larmes monter derrière les verres de ses lunettes et je comprends une forme d'anxiété, c'est certainement pas la seule, vu l'état du monde en ce début d'année 2026. Je lui fais une petite vanne, je lui souhaite de profiter de son séjour de yoga et je la remercie. Et c'est ici que je croise la route d'Arnaud, main dans les poches, casquette d'une équipe de la NBA.
Le pétrole, la merde du diable.
La quoi?
Le caca du diable. Apparemment c'est une expression vénézuélienne. Extrêmement du diable, pétrole. Bon,
Je connaissais pas, mais c'est aussi ça le gai savoir. On parle de cette roche liquide d'origine fossile, formée sur des millions d'années.
Si je comprends bien, c'est des anciens organismes vivants, des arbres qui ont fait ces sédiments, donc c'est toujours aussi ce truc-là de... On dirait presque la circulation sanguine de la planète, finalement. Cette matière qui circule par veine au fin fond des mines et qui jaillit comme ça, parfois.
Alors, je trouve l'image plutôt jolie, mais je lui rétorque quand même que l'homme lui a foutu une grosse seringue dans la veine à la planète.
Non, mais c'est quasiment un rapport d'addiction de l'homme aussi. C'est addictif, quoi. En fait, c'est comme un camé qui sait que dans son appart, il y a 2-3 pochetards, il va forcément finir par le finir. Bah, évidemment, récemment, ça nous fait penser à Donald Trump. C'est quelqu'un qui assume justement aller déstabiliser un pays pour justement avoir du pétrole, tel un camé, quoi. Tel quelqu'un qui n'aurait pas d'autre possibilité que la violence pour subvenir à son addiction.
Avant de le laisser filer, on parle de références culturelles autour du mot pétrole. L'album de Tintin au pays de l'or noir, Bleu Pétrole aussi d'Alain Bachung, ou encore cette chanson.
Non que ça. On a le bon vin. On a le bon vin, etc. C'est marrant.
Banger.
Mais moi, je l'écoute tous les matins. Pour me rappeler qu'on a du bon vin. Mais on considère les pays extérieurs comme une terre qui est possible d'extraire du pétrole. Et nous, on n'a pas envie de le faire chez nous parce que c'est pas assez écologique, ça détruirait nos sols, etc. Et on préfère se glorifier avec notre culture ou des choses comme ça.
Et ils ont le pétrole, mais c'est tout, quoi.
Mais c'est tout, quoi. Ils ont rien d'autre, quoi. C'est fou.
Pour Manon, qui veut l'ajouter à sa playlist, c'est « Ils ont du pétrole » de Michel Sardou.
Merci pour la précision.
Ma dernière rencontre, c'est Yves, qui semble tomber du ciel.
J'ai travaillé là-dedans, le pétrole.
Mais non.
Si, je travaillais dans une petite société pétrolière française. Bon, on était pas si mal payé, j'étais jeune. Et puis à l'époque, qu'est-ce que vous voulez
On creusait la terre, c'était branché, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Il me confie ce souvenir d'un site pétrolier dans l'est de la France, à l'époque qui s'appelait Ville Perdue. Ça ne s'invente pas. Alors forcément, on parle de l'actu, de Trump, du Groenland.
Il y a le Venezuela, c'est pareil. En plus, c'est le pétrole le plus dégueulasse du monde, celui-là.
Ah bon?
C'est un des plus lourds et un des plus mal... Enfin, c'est ce que j'ai lu. Hein. C'est un des plus mal traités, on va dire. C'est un des plus polluants au niveau de la raffinerie, quoi, au niveau du raffinage. Mais c'est vrai ce que vous dites. Bon, bah maintenant, c'est la guerre des énergies, etc. Mais va peut-être falloir qu'on change. Mais bon, moi, je suis un peu vieux pour tout ça maintenant.
Ah oui, mais quand même, il ne laissait pas, je sais pas, à son petit niveau. Je lui dis que, par exemple, moi, je me suis mis au scooter électrique.
Bah, j'ai acheté une voiture il y a 2 mois. J'ai acheté une voiture à essence. Hein. Je n'ai pas les moyens d'acheter une bagnole à, je sais pas, 40 000 balles. Hein. Alors moi, je suis un ancien motard et je ne me vois pas rouler avec une moto électrique. Mais parce que je suis un vieux, hein, maintenant. Ouais. Moi, j'aime bien le bruit de la... Bah, j'ai eu 2 Ducati, j'aimais bien le petit bruit de la Ducati, quoi,
ouais,
c'était
ouais.
Sympa.
Bah, on l'aime bien,
les boomers.
Ouais, ouais, le petit bruit du moteur de la Ducati, on l'aime bien. Mais on sait ce qu'il faut pour le faire rougir. Et c'est peut-être ça le vrai sujet. On angoisse devant l'actualité du pétrole comme on regarde quelqu'un en manque qui creuse pour trouver sa dose, en sachant très bien qu'on est tous un peu accros. Nous aussi, il serait grand temps de passer à autre chose. Alors si en France on n'a pas de pétrole, il serait grand temps d'avoir des idées.
Mathieu Zanneau, je vous ai vu réagir pendant ce micro-trottoir à deux moments, quand on parle de caca du diable au Venezuela pour qualifier le pétrole, et le fait que le pétrole vénézuélien est assez dégueulasse finalement.
Ouais, l'origine de l'expression, elle est significative. L'excrément du diable, c'est une expression qui a été inventée par l'un des deux cofondateurs de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. L'OPEP, qui était un Vénézuélien, et qui en fait voyait, ça peut paraître paradoxal, était un écologiste et un tiers-mondiste. C'est-à-dire qu'il voyait les ressources pétrolières comme une ressource extrêmement précieuse et qui du coup devait être épargnée, utilisée avec parcimonie, intelligence, et il voyait ça aussi comme l'occasion d'une revanche du Sud contre le Nord et un instrument d'émancipation, de libération nationale. Et quand il a vu, et c'est là qu'on retrouve l'addiction, quand il a vu la corruption endémique provoquée par son pays, par la manne pétrolière dans les années 70, il a eu cette expression, c'est l'excrément du diable. Donc pour moi, c'est assez riche de leçons. Et puis effectivement, le pétrole, on peut dire que le pétrole qui n'a pas encore été exploité au Venezuela est l'un des plus dégueulasses du monde, je crois que c'était l'expression de votre...
Mais ça, c'est intéressant, moi personnellement, moi, j'y connais rien, mais je pense
que
le pétrole
types,
était
en fait.
Le pétrole et qu'il était partout pareil. Il y a différents types de pétrole.
Il y a plein de sortes de pétrole, c'est un peu comme le Pinot ou le...
Le Pinot de Nice ou voilà. Le différent, c'est pas...
Il y a différentes qualités et différentes... C'est pas la même... Chimiquement, ça va pas être la même chose. Vous connaissez le bitume. Vous savez ce que c'est que le bitume, vous savez ce que c'est que le gaz naturel. C'est la même chose chimiquement, ce sont des hydrocarbures, c'est la même structure moléculaire. Simplement, il y en a qui sont très légers, donc qui sont gazeux, et d'autres qui sont très lourds. Et ce qu'il y a au Venezuela, on appelle ça de l'extra-lourd. Et donc c'est un pétrole qui est visqueux, acide, et qui se trouve dans des zones subtropicales où l'exploitation est très nocive pour l'environnement. Mais ça dit quelque chose de très important, le fait qu'on aille chercher, qu'on s'intéresse à ce pétrole qui n'est pas forcément le premier, c'est pas du château Latour.
On est au bout du truc, quoi.
Exactement. En fait, il faut nous imaginer comme quelqu'un qui serait au pied d'un arbre fruitier et qui, au cours du siècle, a commencé par cueillir les fruits bien mûrs à portée de main et qui, maintenant, est obligé de prendre une échelle, de monter en haut de l'arbre. Il ne peut pas consommer le fruit directement parce qu'il est déjà un peu pourri, donc il faut qu'il en fasse des compotes. Enfin, on est vraiment là-dedans et ça dit quelque chose des limites dont on est proche dans l'exploitation de cette source fabuleuse d'énergie et de puissance qu'est le pétrole, qui est carbonée, donc elle est en train de transformer la planète en toaster, mais aussi, on l'oublie complètement, est tarissable et épuisable. Et il se trouve que nous, Européens, on a à peu près tout épuisé, ce qu'on avait sous la main.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Faut-il vraiment en finir avec le pétrole ? Voilà une question qui n'a jamais été posée par Mathieu Vidard dans son émission La Terre au Carré. Et pourtant, en dénigrant le pétrole, nous opprimons une minorité, celle des possesseurs de Ford F-150 Raptor Air, avec ses 20 litres en moyenne, 28 en mode sport. Et oui, ayons un peu d'empathie pour Cyril Lacarrière, sans cesse jeté en pâture à la meute éco-terroriste, tout ça parce qu'il a besoin d'une bonne garde au sol pour les ralentisseurs qui pullulent là pour ton combo. Et pourtant, je ne suis pas, vous le savez, un vassal du lobby pétrolier, j'ai moi-même acheté un scooter électrique qui a failli me valoir une amputation. Alors, de leçons à recevoir de personne.
C'est pas drôle, mais...
Mais puisque cette antenne est un sanctuaire de la pluralité, je me dois de rappeler qu'il y a une autre vérité.
Drill, quiz... baby drill.
Non, c'est... Oui, tout à fait. Tout à fait, j'avais oublié Cyril. J'avais oublié l'intervention de notre rédacteur en chef. C'est vrai. Ce quiz sera donc consacré à tous les bienfaits que le pétrole a pu procurer à l'humanité. Jouons au Zoom Zoom Test. Premier bon point pour le pétrole, son rôle déterminant dans la préservation de la faune. Et oui, l'or noir peut aussi sauver des espèces, ça vous la coupe. Et pourtant, quel bienfait écologique est attribué tout à fait officiellement à l'essor du kérosène au 19e siècle. Je précise pour Manon qui a l'air de l'esprit mal tourné, quand on vous dit ça vous la coupe, on parle de la langue.
J'ai eu très peur. Je vous remercie.
Quel bienfait écologique est attribué tout à fait officiellement à l'essor du kérosène au 19e siècle. Je précise que plusieurs réponses sont possibles à chaque fois. Il a sauvé les baleines de l'extinction.
Alors est-ce qu'il a
joué? Évidemment, Mathieu,
il est trop fort.
Camembert. Ouais.
Camembert.
Il a sauvé. C'est une expression qui remonte à la fin des années 90.
Je pense au moment où on disait ça perd les copettes peut-être.
Bref, Quentin, vous démarrez ce quiz avec 3 points de pénalité, vous n'êtes donc pas prêt de le remporter. Manon, vous avez la main. Alors, le pétrole, il a sauvé les baleines de l'extinction.
Oui.
Il a permis de stopper la déforestation massive. Ou il a permis de diminuer la consommation de charbon dont les émissions de CO2 sont bien supérieures à celles du pétrole.
B.
C.
Alors là, on est sur un cas de nullité. Mais alors, de nullité, Mathieu. Bon, alors, donnez la réponse.
Je pensais qu'il y avait un peu de niveau ici.
Oui, et surtout, pire, ça veut dire qu'on ne vous a pas écouté, puisque absolument, vous l'avez donné la réponse tout à l'heure. Il a sauvé les baleines de l'extinction. Réponse A. Écoutez cette baleine. Elle dit merci, Exxon. Merci, Standard Oil. Merci, Total Energy. Big up à mon gars sûr, Patrick Pouyanné. Sans vous, je n'existerais plus. Eh oui, mes petits écolos. Jusqu'au 19e, les foyers étaient éclairés grâce à des lampes fonctionnant à l'huile de cachalot. Cyril l'a dit. Oui. Vous imaginez donc qu'avec l'augmentation de la population mondiale, si on n'avait pas trouvé autre chose, il n'y aurait plus beaucoup de cachalots en 2026. Le passage aux lampes à pétrole mettra donc fin à un massacre industriel de cétacés devenu non rentable. De quoi clouer le bec à ces marioles de Paul Watson et Hugo Clément. Mais en revanche, cela n'a pas fait baisser la consommation de charbon, car le pétrole a surtout créé des nouveaux usages et la consommation mondiale de charbon, elle, n'a jamais cessé d'augmenter pour produire l'électricité et l'acier. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. You can't make omelettes without breaking eggs, comme Trump tente de l'expliquer à ses braves Groenlandais. Mais ce n'est pas fini. Outre permettre à Cyril de garer son Monster Truck sur son monster truck sur n'importe quel trottoir du 16e, le pétrole a aussi permis d'endiguer l'exploitation d'autres espèces animales, comme par exemple le Bombyx mori, le ver à soie, dont le cocon est bouilli pour extraire le fil. Le Dactylopus coccus, la cochenille broyée pour le colorant des rouges à lèvres. Ou le Mustela poturiu, le putois commun, dont la glande anale est utilisée comme répulsif à renard, mais ça vous le saviez.
B.
Ah, c'est fou parce que là, on a une bonne réponse, mais il en manque une autre.
C.
Non, c'est une mauvaise réponse.
A et B.
Oh, bravo Manon, bravo. Réponse A et B. Tout en contribuant à notre beauté, le pétrole a sauvé le ver à soie et la cochenille. Et oui, sans pétrole, pas de nylon pour les bas et pas de contouring non plus, puisqu'en dehors des produits bio, le pétrole reste l'ingrédient de base des cosmétiques, car comme Quentin dans le quiz, il est inerte, stable et occlusif.
Oui. Déjà, je suis sûr que vous savez même pas ce que c'est le contouring, ça me fait rire.
Le contouring,
mais c'est quoi?
Alors, je vais vous dire une bonne chose, Quentin. Dans le quiz, c'est moi qui pose les questions. Ah ouais. Vous héritez de 2 points de pénalité supplémentaires.
Ça fait 5.
Ce qui fait que nous sommes à -5 à 1.
Camembert.
Déjà, je sens que vous vacillez sur vos appuis wokistes comme une marionnoche en fin d'after. Attendez la suite, car sans pétrole, la vie de notre rédacteur en chef Pierre Courade n'aurait été qu'un long voyage dans la brume et l'errance, une véritable vallée de larmes. Quand vous aurez appris que le pétrole est aussi présent dans quoi? Dans le baume du tigre, dont Pierre s'enduit chaque séance de squat. Vous l'imaginez, vous visualisez. Le Nutella, composante essentielle de la calzone, dessert pilier de son régime alimentaire. Ou la vaseline, là, pas d'explication, c'est l'heure du goûter, les enfants nous écoutent.
C'est...
Ouais, non.
Bah, on parle...
Ah bon. Sur,
on parle de Pierre, bon.
Non, mais moi, j'arrête de jouer,
et
je
puis,
joue pas,
surtout,
moi.
Vous, vous n'avez rien écouté.
Mais moi, je joue pas.
Une des
vous
réponses a été donnée déjà.
Vous plus. Non, mais
et maintenant, vous n'écoutez pas bien. C'était la C et la A. A et C, puisque sans pétrole, pas de vaseline, et sans vaseline, pas de... Alors je vous connais, je sens que vous voulez plus de détails. Non pas sur la romance story d'entre Cyril et la folle dingo, qui fait partie du patrimoine humoristique de Zoom Zoom Z, mais sur l'invention de la vaseline elle-même, eh bien soit. On doit cette découverte essentielle à Robert Chisbrough, un chimiste qui, se baladant sur un champ de pétrole en Pennsylvanie, découvre que les ouvriers utilisent la wax rod, cire de tige, un résidu cireux bloquant les foreuses pour apaiser leurs plaies et leurs brûlures. Il va affiner le produit pendant 5 ans, il va convaincre le public, ça va mettre aussi un petit moment, il va aller jusqu'à se brûler lui-même volontairement pour prouver les vertus cicatrisantes de son produit, et c'est grâce à cette abnégation scientifique qu'aujourd'hui, Pierre et la folle dingo peuvent... Mais enfin bon, le temps passe, filons à la dernière question.
Mais apparemment, c'est très bon pour la peau, la vaseline.
Mais évidemment.
J'ai vu ça.
Évidemment.
Ça, faut l'isoler.
C'est le pétrole, évidemment. Les propriétés cicatrisantes ne sont pas les seules vertus de ce produit miracle et polyvalent qu'est le pétrole, car le jus miraculeux, comme l'appelle Quentin, pour qui l'interdiction des véhicules thermiques signifierait la fin de la civilisation, a également permis de lutter contre la calvitie, de démocratiser la lecture, ou de sauver les abeilles de l'exploitation industrielle.
Les trois.
Quentin.
Hein?
Ah.
C'est une bonne réponse de Quentin, lui, pour une fois. Oui, oui.
Alors, ça fait 3 points, du coup.
Non, ça fait juste 1 point. Il jaillit du sol, mais c'est un don du ciel. Alors, soyons justes, pour ce qui est de lutter contre la calvitie, c'est juste une promesse de certains charlatans du 19e. J'ai personnellement tenté d'ajouter quelques gouttes de samplon 95 à ma morning routine.
Je ne suis pas
totalement convaincu du résultat. En revanche, parlons de la paraffine. Ce sous-produit du raffinage très bon marché a remplacé assez rapidement la cire d'abeille, beaucoup plus chère pour la fabrication des bougies, permettant ainsi, on l'a dit aussi dans l'émission, de lire le soir à moindre frais et d'arrêter de faire chier les abeilles. Vive le pétrole et victoire à ces larves de Manon.
Oui.
Magnifique.
Quentin, vous tâchez d'écouter l'émission.
Non mais
la prochaine
j'ai même pas envie de jouer, j'ai plus envie de jouer. Vous mettez 8 points de pénalité.
Vous n'avez
Camembert.
Vous n'avez qu'à respecter votre producteur. Je vous répondrai demain quand je me serai renseigné via ChatGPT. L'heure noire cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec le directeur de The Shift Project, le think tank de Jean-Marc Jancovici, Mathieu Ozano, auteur de l'ouvrage de référence Or Noir, la grande histoire du pétrole aux éditions La Découverte, est toujours avec nous. Mathieu, The Shift Project annonce depuis plusieurs années la fin du pétrole, d'où l'intérêt de réfléchir dès à présent à un monde décarboné. On en est où exactement? Combien de temps on a à vivre avec le pétrole? Là, on parle du Venezuela. Et visiblement, il reste encore pas mal du pétrole sur la planète.
Oui, il en reste beaucoup. La question est de savoir pour qui. Alors, il y a 2 excellentes raisons de se préoccuper de la finitude du pétrole. Il y a le climat. En gros, degré ou de force, il faut en sortir. Degré, si on veut éviter un monde à plus de 2 degrés. Désolé pour le jeu de mots. Et puis de force, parce que y a plein d'endroits sur la planète où le pétrole s'épuise. Se tarit, c'est un phénomène écologique, naturel. La mer du Nord étant un cas d'école de ça, la mer du Nord, ça a été un producteur très important de pétrole et de gaz après les années 70, après les chocs pétroliers. Et puis la production a atteint un maximum il y a un quart de siècle. Et chemin faisant, on s'est dit, tiens, la production de pétrole et de gaz naturel de la mer du Nord décline. Qui est-ce qui pourrait bien vous en vendre dans le coin pour compenser? Ben, Monsieur Poutine. Et en fait, la claque qu'a pris toute l'industrie européenne après l'invasion de l'Ukraine, l'industrie européenne est en récession depuis 2022, elle est due au fait qu'on a pour compenser le tarissement de la plus grosse source de pétrole qu'on avait en Europe, on est allé miser tout l'avenir finalement de l'économie européenne sur Poutine. Donc ça veut dire que il faut se confronter au fait qu'on est dans un siècle où, de gré ou de force, de gré si on veut éviter le réchauffement climatique, de force parce que c'est une ressource tarissable, il va falloir sortir du pétrole.
Vous l'avez dit, les pays mentent parfois sur leurs ressources, déclarent des chiffres un peu fantaisistes. On remarque depuis quelques années que les monarchies du Golfe, très pétrodépendantes, commencent à se diversifier. Le Qatar dans le sport, l'Arabie Saoudite dans le tourisme. Est-ce que ça, c'est le signe qui ne trompe pas, qu'ils préparent eux-mêmes l'après-pétrole? Ça veut dire qu'ils voient leurs réserves et ils voient que ça ne va pas durer éternellement.
Oui, oui, ils le préparent. Et sachant qu'eux sont les mieux lotis par mère nature. C'est-à-dire que la dernière goutte de pétrole
sera
sans doute une goutte de pétrole saoudien. C'est les plus belles ressources, les plus grosses ressources de la planète. Mais eux se diversifient et d'autres pays subissent complètement, ont subi complètement. On le sait peu, la Syrie a été un producteur de pétrole important. Et on voit très bien la capacité du régime Assad à acheter la paix sociale s'effriter complètement à mesure que la production de la Syrie s'est épuisée dans les années 2000 avant la guerre civile.
En un mot, est-ce qu'il y a un droit international qui concerne le pétrole spécifiquement ?
Le droit international, c'est le droit du plus fort, en fait.
Ouais.
Donc c'est celui de l'OPEP ou celui de Monsieur Trump ? Non. La réponse est non.
Et pour finir, vous dites que la Chine a misé à fond sur la voiture électrique plus pour des questions géopolitiques que climatiques.
Je pense que c'est les deux, mais si vous voulez, quand on est une puissance, le premier impératif, c'est de s'assurer de la pérennité de cette puissance. Le charbon de la Chine joue un rôle très très important dans la puissance chinoise. On sait que c'est un charbon qui ne durera pas éternellement. Et donc du coup, et la Chine importe énormément, tout comme l'Europe, importe énormément de pétrole et de gaz. Donc pour assurer son autonomie stratégique, ou sa souveraineté, ou sa capacité à exercer sa puissance, elle a besoin de miser sur ses propres ressources. Et je pense que c'est une raison fondamentale pour laquelle la Chine tente de se diversifier et de diminuer ses besoins d'importation de pétrole.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Un film aujourd'hui, deux Oscars, un Golden Globe, numéro 3 du classement des meilleurs films du 21e siècle selon le New York Times, considéré par certains comme un chef-d'œuvre. Je vous parle de There We Build Blood.
On vous offre $1 million.
Quand comptez-vous nous payer, Daniel?
J'observe les gens et moi j'ai envie de les aimer.
Sorti en 2007, le film de Paul Thomas Anderson met à l'écran un Daniel Day-Lewis absolument magistral.
Deuxième tentative.
Il remportera un Oscar. There Will Be Blood, yeah. L'adaptation du roman, merci, on peut m'applaudir, du roman Pétrole de l'américain Upton Sinclair, sorti en 1927. L'histoire nous emmène au début du XXe siècle, à un moment clé de l'histoire américaine. Le pétrole vient de surgir comme une nouvelle promesse de richesse. Daniel Plainview, joué par Daniel Day-Lewis, est un prospecteur qui va devenir un magnat industriel prêt à tout pour s'enrichir. Son ascension est fulgurante. À travers lui, le film raconte la naissance d'un capitalisme où l'exploitation des ressources passe avant tout le reste. Car dans There Will Be Blood, le pétrole n'est pas un simple décor, c'est le cœur du récit. Il façonne les paysages filmés par la caméra de Paul Thomas Anderson dans des grands champs où il n'y a absolument rien. Il transforme aussi les rapports humains car il attise évidemment la violence et la convoitise. Chaque puits creusé rapproche Plainview de la fortune mais l'éloigne des autres. Le film montre comment cette énergie, présentée comme un progrès, engendre surtout de la destruction. Des terres sont confisquées, des familles sont trompées, la cupidité devient une méthode. Et face à Plainview, il y a aussi Ellie Sunday, un jeune prédicateur interprété par le super Paul Dano, un acteur génial, quoi qu'en dise Quentin Tarantino, qui l'a qualifié de pire acteur de sa génération. Toujours sympa ce Quentin. L'affrontement entre les deux personnages structure le film. L'un incarne le pouvoir économique et l'autre le pouvoir religieux. Tous les deux cherchent à dominer une communauté fragile, prête à croire ou à vendre pour survivre. There Will Be Blood raconte ainsi une Amérique bâtie sur la conquête, la manipulation et la foi instrumentalisée. Évidemment, il reste beaucoup d'actualité aujourd'hui. Il parle de dépendance énergétique, du pouvoir, des industriels et surtout du pétrole qui va jusqu'à détruire des familles, comme le montre le film.
Merci Manon, la chronique de l'espoir, puisque vous avez dit There Will Be Blood de mieux en mieux au fil chronique.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
À la question « Où rencontrer en vrai les membres de Zoom Zoom Zen ?», la réponse est simple, elle tient en une adresse, le Barlone, dans le 9e arrondissement, le temple du karaoké drague. Cyril, évidemment, n'a jamais mis les pieds dans ce qu'il appelle un repère d'inverti. Ceux qui aiment la fête, en revanche, comme notre réalisatrice pole danseuse Alicia Vulot, Pierre Courade ou Péné, notre stagiaire au sang bleu qui aime s'encanailler auprès des minorités underground, adore ce lieu. Tous les dimanches, si vous voulez passer un moment de qualité, direction le Barlon. En attendant, Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit sur le pétrole qui n'a rien à voir en une minute chrono.
Bon, au départ, on voulait partager une galette cookie de chez Picard, mais sachez qu'ils sont en rupture de stock. J'en profite d'ailleurs ici pour lancer un appel parce que se taper Alicia Vulot qui chante Les démons de minuit, c'est pas un cadeau. Bref, aujourd'hui, on a
choisi
du pétrole.
Oui, du pétrole, c'est
directeur
ça le sujet.
De The Shift Project, Mathieu Ozano, auteur d'un livre référence sur le sujet Or noir et 65 ans après le voyage de Tintin dans le pays, les choses n'ont pas tellement évolué. Le pétrole est toujours l'objet de conflits et de crises. L'exemple le plus récent est évidemment l'opération militaire américaine au Venezuela. Mathieu Ozano nous a expliqué qu'en fait, Donald Trump lève le voile sur le, je cite, sale petit secret de polichinelle de la puissance américaine depuis un demi-siècle. Souvenez-vous, l'invasion de l'Irak a été décidée sous couvert d'armes de destruction massive, alors que l'objectif premier était dans le sous-sol. En fait, guerre et pétrole ont toujours été intimement liés. Mathieu Ozano nous a expliqué que la problématique du pétrole a été posée dès la Première Guerre mondiale. Durant la Seconde, la bataille de Stalingrad avait pour but stratégique de mettre la main sur des réserves pétrolières. Il n'y a pas de règle en ce qui concerne le pétrole, c'est la loi du plus fort. Aujourd'hui, par exemple, les Américains pratiquent la diplomatie de la canonnière, s'accaparer les réserves, les contrôler pour asseoir leur puissance. Et la puissance, c'est de l'énergie. Et même si en France, on n'a pas de pétrole, on a du Pinot Donis.
Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chute, mais merci quand même, bah, Pierre Courade.
C'est une bonne chute pour Quentin.
Oui.
Oui.
Bon, ça fait une personne c'est sur 1 500 000 personnes qui nous écoutent.
1 550 000 personnes.
C'est plaisir,
vous avez raison de le signaler. Aussi, voilà. Très bien. On retrouve à présent, les amis, Jessé, particulièrement angoissé par toutes ces histoires de pétrole.
Ah oui, bonjour à tous. Ah bah Mathieu, moi ça me stresse, hein, toutes ces histoires là de réserves de pétrole de je sais pas quoi. Plus évidemment, quand la Jessé vient d'avoir le permis, hein, qu'il y a des problèmes d'essence. C'est là, moi j'ai pas fait 40 heures de conduite à Bobigny et fait 5 accidents sur le rond-point de l'Étoile, tout ça pour me retrouver avec une voiture à pédale, hein, je précise. Non, il n'y aura pas de vanne attendue à ce moment-là. C'est dingue. Hein.
C'était quand même drôle.
Non, mais moi, je vous le dis, hein, s'il faut aller pomper soi-même le pétrole, comptez sur moi. Hein, puis ce ne sera pas la première fois que je mets les mains dans un trou sale. Elle était là, la vanne attendue. Elle était là. Bah, faut pas décevoir sa base, hein, quand même. Hein, oui, Quentin, je suis prêt à me sacrifier pour l'énergie de ce pays. Tu fais quoi, toi, hein, à part péter du kombucha? Franchement, hein, colle un tuyau, au moins, ça alimentera une éolienne. Ah, mais, oui, non, mais rigole pas, la Courade, hein, franchement. Avec ta stéréo de vélo là, puis tous tes vibros qu'on pourrait alimenter Fessenheim. Oh. Hein, l'Europe, faut se réveiller là, hein. Ouh, hein, qu'on dirait moi hier, à quatre pattes et soumise à tout le monde. Oh. Et Pierre, la prochaine fois que tu viens pas, préviens quand même, hein, pas cool. Hein, on peut pas rester en sandwich entre les Ricains et les Rouskov. Trump, Poutine, Boukake, que c'est pas un mode de vie ça, c'est l'historique YouPorn de Cyril. Même si bon, personnellement, je m'en sortirais, hein, vu que j'ai fait anglais LV1 et russe LV3. Voilà. Oui, comme Mathieu, hein.
Ouais. Tu gagnes pas le ski.
Da, ça,
tout tout.
Hein? Mais si. Je date. Zamolchi.
On en est pas encore là.
Manon, tu gagnes pas le ski? Niet, hein, t'es plochaya journalista, kak zviesta nieza estiem stalom. Voilà, c'est juste pour vous montrer
gaffe,
que je suis pas.
Vraiment, je vais tout traduire. Traduisez,
j'ai dit que des gentilles choses. Ouais. En tout cas, vous serez bien contents quand les chars de l'armée rouge débarqueront, ouais. Hein, puis que la GCL connaîtra déjà 2-3 soldats. Hein. Voilà. Macron, il veut faire le mariole avec les puissants de ce monde, qu'on n'a même pas de puits de pétrole. La seule arme qu'on a, c'est des patriotes comme moi. Hein. Enfin, si, pardon, on a un vieux filon là, d'or noir sur le bassin d'Arcachon, hein, à force que le cinéma français à y chier, ça a fait un gisement. Mais sinon, que chi. Bah forcément, hein. Après, on n'a peut-être pas d'hydrocarbures en France, mais on a un autre combustible, hein. Le fromage. Bah bien sûr, me remerciez pas, l'industrie de l'énergie, surtout, hein. Bah pardon, mais après, debout de Clacos, hein, on se transforme tous en usine à méthane. Hein. Voilà, moi en pleine digestion d'un comté, hein, t'as intérêt à pas craquer une allumette à côté si tu veux pas que tout explose. Hein, surtout que là, on est en pleine saison de la raclette.
Oui.
Hein, bah voilà, donc il y a peut-être quelque chose à trouver pour pas gâcher tout ce GPL. Hein. Donc en fait, les ingénieurs bossaient, en fait. La GCL peut pas tout résoudre, hein. Je serais pas là si j'avais fait les mines. Oh, voilà, c'est pour vous que je dis ça. Hein. Moi, je m'en sortirais avec les Ricains et les Russes. Hein. That bitch was born ready. Bon, je vous avoue qu'en revanche, si c'est les Chinois qui gagnent, je suis dans la merde. Ce sera l'occasion de passer à l'électrique.
Ce sera l'occasion. Merci beaucoup, Jesse. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom. Et la séquence promo, vous serez à partir du 3 juin au Théâtre des Mathurins à Paris. Monsieur en tournée partout en France. Le 24 janvier à Auchel dans le Nord. Le 6 février à Dax. Et le 6 mars à Caen. Toutes les infos sont sur icigc.com. Et puis, comme je suis grand prince, je rappelle aussi que votre premier roman, Les bateaux sur la terrasse, est disponible dans toutes les bonnes librairies.
Merci. Mais oui. C'était vraiment toi mon préféré.
Effectivement, ça ne m'étonne pas, je suis ton producteur. Merci Mathieu Ozano de nous avoir tout expliqué sur le pétrole. Je rappelle que vous dirigez The Shift Project, le think tank qui réfléchit à une société décarbonée. Et je rappelle votre livre, tout à l'heure, vous avez semblé faire la moue quand je disais que c'était le livre référence. Or noir, la grande histoire du pétrole.
Non. C'est, je vous remercie de faire autant de... Et moi également, je vous remercie de me faire autant de publicité. C'est appréciable.
Zoom Zoom Zen.